info sur VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, Lionel Gaïma en lieu et place de Camille Gros-Didier pour cette édition de Carrefour Science et Santé. Un programme que vous pouvez suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres d'abord. Au Burkina, l'épidémie de la grippe aviaire est de retour. Nous suivrons un reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ouanogo. Combiner un champ magnétique et la lumière pour lutter contre le cancer, mais oui, des chercheurs français ont obtenu ainsi chez la souris une régression tumorale totale.
Le traitement, il vient de l'application d'un champ magnétique alternatif. La souris est placée dans un petit électroaimant, donc ça existe à la taille humaine aussi. Et pour la photothérapie dynamique, c'est un laser.
Christine Ménager évoquera les travaux réalisés de concert avec Claire Willem pour le compte du CNRS en France. Nous reviendrons sur l'interview de Camille Gros-Didier avec Dr Selma Kamassi sur le programme nouvellement lancé par l'OMS qui encourage les professionnels de la santé dans le monde entier de commencer à utiliser des seringues intelligentes afin d'enrayer la propagation des maladies infectieuses. Après l'épidémie qu'a connue le Burkina en 2006, revoilà encore la grippe aviaire au Faso. L'annonce a été faite par le ministre en charge de ressources animales, Jean-Paul Houamba. Suivez le reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ouanogo.
Des mortalités importantes de volailles ont été enregistrées courant février-mars 2015 au niveau des élevages traditionnels et modernes dans les provinces du Kadiogo, région du centre, et du Sangié, région du centre-ouest. Les investigations des services vétérinaires ont abouti à une forte suspicion de l'influenza aviaire hautement pathogène ou grippe aviaire. Cette suspicion a été confirmée par un laboratoire de référence de l'Organisation mondiale de la santé animale et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Nous sommes donc en mesure de déclarer la circulation de la souche hautement pathogène H5N1 de l'influenza aviaire au Burkina Faso.
Une telle déclaration faite un 1er avril laisse penser à un canular. Comme beaucoup de Burkinabés, Alban Kini, jeune cadre, nous a dit qu'il a pensé que c'était un poisson d'avril. On écoute.
Lorsque le ministre est passé hier sur les antennes de la RTB pour annoncer la présence de la grippe aviaire au Burkina Faso, d'abord j'ai rigolé, je me suis dit que c'était un poisson d'avril puisque toute la journée on a été bombardé par ces informations qui ne sont pas vraies.
Et pourtant, la grippe aviaire est bel et bien présente au Faso. Madame Jocelyne Buntulugu, secrétaire générale du ministère des Ressources animales, lève toute idée de doute.
Malheureusement, ce n'est pas un poisson d'avril. Pour le moment, on a notifié 3 ou 4 foyers, mais on n'est pas sûr qu'on va se limiter à ces foyers. Donc, les investigations des services vétérinaires se poursuivent. Ce qu'il faut noter de très important, c'est qu'il y a un arrêté portant déclaration d'infection. En dehors donc de la signature de ces arrêtés portant déclaration d'infection, il y a un certain nombre de messages que nous allons faire passer dans la presse portant information sur l'influenza aviaire, également portant et les mesures de biosécurité à observer en matière de grippe aviaire.
Déjà, le décompte macabre fait ressortir des pertes énormes. Lassina Ouattara, directeur général des services vétérinaires, explique.
Nous avons enregistré 115 000 volailles, comprenant des poules pondeuses, des poulets de chair, des poules, des pintades, des canards et des dindons en milieu traditionnel. Dans les 115 000, vous avez et la volaille traditionnelle et des pondeuses essentiellement. Alors, les pondeuses, si on fait un petit calcul rapide, les pondeuses à la réforme sont vendues à peu près en moyenne à 3 000 francs. Sur les 115 000 poulets que nous avons eus, nous avons à peu près entre 100 et 110 000 qui étaient des pondeuses. Donc, si vous multipliez ces 110 000 par 3 000, donc vous voyez l'étendue des pertes économiques. En faisant une évaluation rapide, les pertes qui sont actuellement enregistré tournerait autour de 4 milliards 750 000 à peu près.
Il faut avouer que cette nouvelle était la moins attendue en cette veille de fête pascale où, rien qu'à Ouagadougou, la consommation journalière de volailles tourne autour de 35 000. Zoumana Ouanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Washington. Washington, la voix de l'Amérique, vous continuez à écouter Carrefour Science et Santé sur VOA Afrique. Côte d'Ivoire, le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants ont fait l'objet d'une conférence internationale initiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation Mondiale de la Santé Animale. Il s'est agi pour les experts réunis à Abidjan de trouver des stratégies pour barrer la route à cette maladie qui affecte des petits ruminants et appauvrit les populations. Reportage Germain Dri, correspondant de la VOA à Abidjan.
Les ministres et les experts des pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et du Moyen-Orient touchés par la peste des petits ruminants se sont retrouvés au bord de la lagune Ébrié pour unir leurs efforts et mettre en commun des méthodes susceptibles d'enrayer cette maladie. Pour y parvenir, Dr Bernard Vallat, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé animale OIE, estime que des besoins complémentaires seraient bienvenus.
Nous avons tous les outils pour y arriver. Il nous manque seulement une volonté politique commune de toutes les régions et pays infectés en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Des ressources pour appuyer les pays infectés les plus défavorisés. Une coordination mondiale, régionale et nationale. Nous devrons enfin démontrer que les investissements à réaliser pour cette éradication ont un retour économique satisfaisant pour les bailleurs de fonds qui sont sollicités pour appuyer cet événement.
En Côte d'Ivoire, où la maladie s'est signalée en 1942, la peste des petits ruminants PPR n'a pas reculé. Kwasi Agumani est le ministre ivoirien de la production animale.
Les perturbations que nous avons vécues de 1999 à 2011 ont entraîné l'interruption des programmes économiques et financiers. Elles ont freiné, en l'occurrence, l'investissement prévu pour la modernisation de notre sous-secteur élevage et ont provoqué un recul de la productivité et de la compétitivité de nos produits d'élevage, ainsi qu'une désorganisation du système de santé animale.
Au plan économique, le PPR crée d'énormes pertes. Berthe Tekola, directeur de la division de la production et de la santé animale de la FAO.
Le danger est là. Donc si on ne l'arrête pas aujourd'hui, mais demain sera difficile à gestionner. On la trouve en Moyen-Orient, en Asie, jusqu'à la Chine, vers l'Europe. On la trouve en Turquie. Ils ont un impact négatif, non seulement sur le coût, sur l'aspect économique, mais sur l'aspect socio-économique.
Germain Dri, Abidjan, VOA Afrique.
Combiner un champ magnétique et la lumière pour lutter contre le cancer, c'est ce qui a permis à des chercheurs français d'obtenir chez la souris une régression tumorale totale. Ils ont combiné dans une liposome, c'est-à-dire une petite bulle, des nanoparticules magnétiques et des photosensibilisateurs. Ensuite, ils ont injecté ces liposomes directement dans la tumeur. La combinaison des nanoparticules magnétiques et des photosensibilisateurs des chercheurs leur a permis de combiner aux techniques pour détruire intégralement les cellules cancéreuses. Ces résultats ont été publiés dans ACS Nano par Claire Willem et Christine Ménager, chercheurs au CNRS. Ils témoignent l'importance des thérapies multiples pour lutter contre le cancer. Christine Ménager, maître de conférences à l'université Pierre et Marie Curie, revient sur les travaux des chercheurs et explique tout d'abord ce qu'est un liposome.
Un liposome, c'est une vésicule artificielle qui est constituée de molécules qu'on trouve majoritaires dans les membranes biologiques. Donc c'est comme un petit sac avec une bicouche, comme une membrane, et donc ça délimite un compartiment à queue, donc de l'eau dans de l'eau.
En utilisant un liposome dans lequel vous avez placé des nanoparticules magnétiques et des photosensibilisateurs, vous êtes parvenu à avoir chez la souris une régression tumorale totale.
Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'était de combiner dans cet objet de taille nanométrique, quelques centaines de nanomètres, des particules magnétiques dans le cœur. Donc ces particules magnétiques sont connues pour chauffer sous champ magnétique alternatif. Ça s'est déjà utilisé dans le traitement de certains cancers. Donc c'est en phase clinique 2 ou 3. Donc elles provoquent localement une élévation de température. Et dans la bicouche, donc la membrane dont je viens de vous parler, on met une molécule qui est un agent photosensibilisant qui, lui, va produire des molécules qui sont très toxiques localement. C'est des radicaux libres, ça s'appelle. Donc localement, on va à la fois chauffer et produire des radicaux libres. Donc on va avoir ce qu'on appelle une thérapie combinée, hyperthermie plus photothérapie dynamique.
De plus en plus, les thérapies pour le cancer sont multiples, justement.
Oui, c'est tout à fait dans cette optique-là que le travail se place. C'est-à-dire, c'est plus s'attendre à bénéfice d'une seule thérapie, mais d'en combiner plusieurs. Donc là, c'est des thérapies qui sont physiques, en quelque sorte. Le traitement, il vient de l'application d'un champ magnétique alternatif. La souris est placée dans un petit électroaimant. Donc ça existe à la taille humaine aussi. Et pour la photothérapie dynamique, c'est un laser. Donc il y a deux stimuli externes qui viennent. D'abord, c'est l'hyperthermie. Ensuite, c'est le traitement avec la lumière. Et c'est l'association des deux qui conduit à la régression tumorale totale. Les deux traitements séparés conduisent à freiner la croissance tumorale, mais ne conduisent pas à la régression totale. Quand on combine les deux, on arrive à la régression totale.
Une seule thérapie ne permet pas du tout de stopper la croissance de la tumeur.
C'est ça.
Alors, quelle va être la prochaine étape pour les chercheurs ?
La prochaine étape, quel que soit l'objet que vous pouvez imaginer, là c'est un liposome, mais ça peut être d'autres. Donc je crois que l'étape, de toute manière, c'est de combiner. On peut rajouter d'autres thérapies. On pourrait imaginer d'amener dans cet objet une chimiothérapie, c'est-à-dire une molécule qui est connue dans le cas des traitements, du cancer du côlon, du sein, etc. Donc qui est connue pour être active. Et combiner ça avec de l'hyperthermie, comme on a fait, et du traitement laser. Pourquoi pas, c'est rajouter encore une thérapie. Mais il y a aussi le problème du ciblage. C'est-à-dire que là, notre objet, il est injecté dans la zone à traiter.
Oui.
Alors que si on veut vraiment proposer ça comme traitement à long terme, comme médicament, il faudrait trouver une thérapie pour qu'après administration par voie intraveineuse ou par prise orale, pourquoi pas, que la molécule et que le traitement physique aillent sur la zone à traiter.
Il peut y avoir plusieurs zones, donc en fait à terme...
Il peut y avoir plusieurs zones, oui.
À terme, une injection ou alors quelque chose pris oralement pourrait traiter toutes les zones et donc assurer une vraie régression de toutes les tumeurs cancéreuses.
Oui, mais ça c'est... très compliqué parce que finalement les stratégies de ciblage chimique, puisque ça revient à ça, c'est-à-dire mettre une molécule de reconnaissance à la surface qui va pouvoir aller reconnaître une zone, et puis on sait quand même que s'il y a des métastases ou s'il y a d'autres zones à d'autres endroits, elles n'expriment pas forcément la même chose. Et donc souvent, non seulement quand ces objets sont chimiquement créés, quand on les injecte in vivo chez le petit animal, on sait que les stratégies de ciblage chimique sont compliquées. Enfin, on n'obtient pas forcément de très bons résultats. Donc, faut multiplier les stratégies de vectorisation, pourquoi pas physique, de vectorisation chimique, pour arriver à ce que on arrive à traiter à la fois toutes les zones et à limiter les effets secondaires.
Christine Ménager, maître de conférence à l'université Pierre et Marie Curie et chercheur au CNRS, était jointe en France. Carrefour Sciences et Santé, un programme que vous pouvez suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Au Bénin, alors que le gouvernement interdit la consommation des viandes de brousse afin de préserver les populations de tout risque d'attraper le virus Ebola, certaines localités n'attendent pas changer leurs habitudes alimentaires. Plusieurs mois après l'interdiction, Peggy Ludovic Dagba s'est rendu à Alada, au sud Bénin, réputé pour la viande d'agouti, pour se rendre compte de la situation. Voici son constat à travers ce reportage.
La localité d'Alada, située à une soixantaine de kilomètres de Cotonou, dans le nord du Bénin, est connue pour être le berceau de la viande d'agouti. La consommation des viandes de brousse y est une tradition et les habitants ne pensent pas s'en départir, malgré le risque de contracter le virus Ebola quelques-uns d'entre eux se sont confiés à nous.
Nous aimons les viandes de brousse parce que tous nos aïeurs consommaient la viande de brousse. C'est pourquoi nous aussi, nous consommons ça jusqu'à présent. Si Ebola existe ou pas, nous ne le savons pas. Il n'y a pas un cas confirmé au Bénin. C'est pourquoi nous, nous consommons.
Et vous allez continuer toujours pas consommer?
Oui, nous consommons toujours.
Je mange la viande de la brousse.
Mais vous n'avez pas peur des maladies?
Non.
Je continue pas à manger les viandes de brousse, précisément la viande d'agouti. J'aime trop ça, je ne peux pas laisser. Il y a aussi le prix. Les autres viandes sont plus chères. Mais par rapport même au virus d'Ebola, vraiment, il faut y croire pour s'empêcher d'en consommer. Parce que cette histoire de virus d'Ebola, vraiment, on sait qu'il y en a, mais ce n'est pas encore venu au Bénin.
L'activité que constitue la vente de cette viande y est aussi héréditaire. Elle se transmet de la mère à la fille. Et rien ne peut la leur arracher. Pas même l'interdiction du gouvernement, comme nous le précise ici cette vendeuse rencontré à Alada.
Ce commerce, je l'ai hérité de ma mère. Je vends la viande d'agouti depuis 30 ans. On en fait toutes sortes d'usages alimentaires et personne n'est jamais tombé malade. Cette mesure n'a fait qu'entraîner la mévente et nous sommes endettés jusqu'au bout. C'est ce commerce qui nous permet de joindre les deux bouts.
On le constate bien, les décisions gouvernementales ont du mal à passer au niveau des populations à la base. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Les parasites du paludisme peuvent changer l'odeur de leur hôte pour attirer les moustiques et propager leur progéniture, relève une étude. Le point avec Michel Joseph.
Les parasites propagés par les moustiques sont la cause du paludisme chez l'homme et les animaux. La maladie ne peut se propager que par l'intermédiaire d'un insecte vecteur, un moustique. Les moustiques détectent leur cible, dont nous faisons partie, par les odeurs que nous exhalons, par la chaleur que nous dégageons et par le dioxyde de carbone que nous relâchons lors de notre respiration. Et justement, des chercheurs de l'école de médecine de l'Université de Washington à Saint Louis, dans le Missouri, ont établi que des terpènes, c'est-à-dire des composés chimiques, émettent les odeurs qui attirent les moustiques. Un changement de parfum pourrait être utilisé non seulement comme outil de diagnostic, mais pour empêcher la propagation du paludisme, explique Audrey Odom, pédiatre et microbiologiste à l'Université de Washington à Saint Louis. Notre équipe a documenté que le type de moustique qui transmet le paludisme peut détecter les composés spécifiques produits par les parasites, une capacité qui guide les insectes vers les personnes infectées, ce qui augmente les chances de propagation de la maladie, constate-t-elle. Agissent-ils vraiment comme nous le pensons en termes de promotion de la transmission du paludisme? Nous poursuivons des études pour savoir quelles protéines dans les parasites du paludisme produisent ces composés, explique Madame Odom. Prochaine étape, un essai clinique au Malawi impliquant des enfants souffrant de paludisme simple pour déterminer si les terpènes sont présents dans leur haleine ou leur sueur. Ces données seront comparées à celles prélevées sur des enfants hospitalisés mais ne souffrant pas du paludisme. L'idée est de montrer, si la théorie des chercheurs tient, que les parasites qui infectent le sang émettent bel et bien une odeur attirante pour les moustiques. On pourrait alors envisager de nouvelles stratégies pour lutter contre le paludisme. D'autres personnes ont déjà commencé à essayer une technique pour appâter par le sucre. En gros, il s'agit de fabriquer des pièges pour les moustiques qui utilisent ce type de composé qui les attire. Les moustiques se précipitent vers les pièges, tout excités par les odeurs perçues, et on les empoisonne, affirme Madame Odom. L'étude est parue dans la revue MBio. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 2 millions de personnes contractent le paludisme chaque année et près de 600 000 en décèdent. En majorité des enfants de moins de 5 ans vivant en Afrique subsaharienne.
« Carrefour Science et Santé, un programme que vous pouvez suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. L'utilisation de la même seringue ou de la même aiguille pour faire des injections à plusieurs personnes contribue à la propagation des maladies, a rappelé la semaine dernière l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Selon les dernières données disponibles, on estime que jusqu'à 1,7 million de personnes ont été contaminées par le virus de l'hépatite B, jusqu'à 315 000 par le virus de l'hépatite C et pas moins de 33 800 par le VIH à la suite d'une injection à risque. Ce qui explique le lancement par l'Organisation onusienne d'une nouvelle politique de sécurité des injections. Pour plus de précisions, on écoute en rediffusion un entretien avec le docteur Selma Kamasi, responsable de la sécurité des injections à l'OMS.
Les seringues qui ne sont pas propres transmettent des infections virales qui sont transmises par le sang. Celle qu'on a étudiée le plus, c'est le HIV, donc c'est le virus du sida, le virus de l'hépatite C et le virus de l'hépatite B. Mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être aussi transmises par les seringues sales, c'est-à-dire une seringue qui est contaminée et qui a été utilisée sur un patient qui est porteur du virus, tels que les fièvres hémorragiques. Et puis surtout, là maintenant, on parle d'Ebola. Et il faut que tout le monde sache que le virus Ebola peut se transmettre aussi par les seringues sales, par les aiguilles sales, quand on n'utilise pas une seringue stérile et une aiguille stérile pour donner une injection à un patient.
Alors l'OMS recommande de nouvelles seringues dites intelligentes. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ces seringues intelligentes ont une technologie, donc elles ont un mécanisme qui empêche qu'on les réutilise.
Et est-ce qu'elles nécessitent une formation particulière du personnel soignant ?
Absolument. D'ailleurs, c'est ce qu'on préconise dans cette nouvelle directive de l'OMS. C'est accompagner toute introduction d'un nouvel équipement ou d'une nouvelle technique par la formation du personnel. Pas théoriquement. Il faut que le personnel voit ces seringues, les nouvelles seringues qui vont être introduites dans le pays, et qu'il les utilise sur des mannequins, ou qu'on fait des séances de formation avant même l'utilisation de ces seringues sur les patients, à proprement parler.
Avez-vous quelque chose à ajouter, docteur ?
Écoutez, moi je pense que je suis très très contente qu'à l'OMS nous ayons issu et nous avons lancé cette nouvelle recommandation. On va beaucoup réduire la transmission des virus transmissibles par le sang parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une étude qui a été publiée en 2014 qui montre qu'en 2010, il y a eu 1 300 000 de nouveaux cas d'hépatite B qui ont été transmis par les seringues et par les injections, à environ 350 000 cas d'hépatite C et 35 000 cas de nouveaux cas de virus du sida qui ont été transmis à cause des injections à risque. Et moi, je trouve que garantir la sécurité des injections, c'est un moyen très facile, très abordable pour éviter toutes ces contaminations qui sont parfaitement inutiles et qui peuvent être évitées.
Le docteur Selma Kamasi, responsable de la sécurité des injections à l'OMS. Washington, la voix de l'Amérique, vous continuez à écouter Carrefour Science et Santé sur VOA Afrique. Et pour finir, mis à part les voitures autonomes, on compte également les voitures volantes parmi les dernières merveilles de la technologie. Jacques Aristide explique.
Aéromobile, une petite start-up slovaque, a dévoilé un beau joujou au South by Southwest, grande kermesse de la haute technologie interactive à Austin, au Texas. Il s'agit d'une petite voiture volante qui pourrait être commercialisée dès 2017, en croire Juraj Vakulik, le patron d'Aéromobile. Le prototype compte deux sièges et peut soit rouler, soit voler. Il ne lui faut que 300 mètres au maximum pour décoller d'un gazon ou d'une piste. Sur Terre, il peut atteindre 160 km/h contre 200 km/h en vol. Alors, où se garer une fois revenu au sol ? Eh bien, dans un parking, le véhicule ayant la taille d'une voiture normale. Quant au ravitaillement, il suffit d'une pompe à essence. Encore faudra-t-il attendre l'approbation de la FAA. Le Flying Roadster coûtera plusieurs centaines de milliers de dollars. S'il se vend bien, Aeromobile compte mettre au point un modèle autonome. Alors voilà, si vous avez toujours rêvé d'émuler James Bond, Aeromobile est là pour satisfaire tous vos fantasmes.
Ainsi s'achève cette édition de Carrefour Sciences et Santé de la Voix de l'Amérique. Au micro, Lionel Gaïmard. Vous retrouverez Camille Grosdidier la semaine prochaine et je vous remercie de l'avoir suivi.